De tous les grands personnages qui ont marqué l'histoire de l'univers, il y en a un qui, d'entre tous, se démarque. Cet homme a possédé un destin si fabuleusement exceptionnel, a accompli des actions d'une telle ampleur que son histoire mérite d'être contée avant celle de tous les autres. Cet homme s'appelle Arthur Van Beck. Né d'un immigré juif et d'une mère américaine, il approcha la quarantaine et vivait dans une somptueuse demeure de la banlieue de Chicago. Arthur était quelqu'un de plutôt séduisant. Grand, bien mis, avec des cheveux noirs brushing gay, de beaux yeux bleus et un sourire Colgate éclatant, il en impressionnait plus d'un. Cependant, ce qui faisait de cet homme quelqu'un de si particulier était qu'il possédait un don incroyable et mystique. Le pouvoir unique de faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Ce gars aurait pu vous faire avaler toutes les couleuvres existantes. L'idée que la Terre était plate, que le Nord était blanc, ou que Dieu est en fait un clafoutis géant à la banane vous apparaissait toute absolument véridique s'il vous l'avait affirmé. S'il était né quelques centaines d'années plus tôt, il aurait pu faire un incroyable prophète. Mais le temps des prophètes était désormais révolu. C'est pourquoi il a choisi la voie des prophètes modernes. C'est-à-dire qu'il est devenu, non pas gourou, mais vendeur. Et quel vendeur ! Sans doute le meilleur qu'on ait jamais vu. Capable de vendre des climatiseurs sur la banquise ou des parkas dans le désert. Il s'était vite fait remarquer par un gros cartel commercial qui lui avait offert un gros salaire, avec plein de gros héros pour animer l'émission de téléachat la plus regardée du pays. Son travail consistait ainsi à vendre tous les mardis matins à des millions de téléspectateurs des trucs totalement inutiles que ces derniers s'empressaient d'aller acheter dans l'heure suivante. Arthur avait ainsi un boulot facile et bien payé qui lui permettait de vivre sa vie confortablement. Il ressentait bien, quelques soirs, une étrange et désagréable sensation qu'il avait du mal à définir, mais elle disparaissait bien vite sous l'action d'un bon verre de gin. Cependant, un jour, l'univers décida de frapper inopinément à sa porte pour bouleverser sa paisible existence. C'était un mardi matin. Le ciel était nuageux, mais ça allait. Arthur, d'une splendide efficacité, s'était préparé en moins de 30 minutes et avait pris son petit déjeuner dans la foulée. Il s'apprêtait donc à se rendre à son travail lorsque quelqu'un sonna inopinément à sa porte. Ayant encore quelques minutes devant lui, il alla répondre, même si une petite voix dans sa tête lui disait que c'était une très mauvaise idée. L'important avait un aspect pour le moins singulier. Il portait une surprenante veste violette à carreaux avec un pantalon assorti. Ses chaussures étaient d'un orange flashy abject. Sa cravate, elle, était bien remontée. Et un chapeau noir à très large bord surplombait son visage carré, qui était fendu par le plus grand sourire qui fut donné à un homme de contempler. Pas de doute, il s'agissait là d'un représentant quelconque. « Bon, écoutez, mon vieux, » commença Arthur, « je suis pressé et je n'ai pas le temps pour... Ah, cher monsieur Van Beck, bonjour !» Le coupa immédiatement l'homme. « Quel plaisir, quel honneur sincère de vous rencontrer. Plaît-il ? » fit l'intéressé, qui avait appris par cœur les 167 manuels de vente de son entreprise et n'avait jamais entendu parler de ce genre d'approche. « Allons, ne faites pas l'innocent, » continua l'homme. « Cela fait longtemps que votre réputation a dépassé les humbles limites de votre système solaire. Vous êtes reconnu par tous comme le plus talentueux et le plus charismatique vendeur de ce cadran de l'univers, voire des trois autres. C'est pour cette raison que moi, le grand Stanley Dribslick, j'ai voyagé jusqu'ici depuis Beta du Centaure pour vous rencontrer. Et surtout, pour vous proposer un boulot en or. Si vous voulez bien me laisser entrer, je pourrai vous expliquer plus en détail la teneur du contrat. » Après un si étrange discours, Arthur était partagé. Il ne savait pas s'il devait claquer la porte au nez de ce type ou le chasser à coups de parapluie. Mais alors qu'il examinait la question, à sa grande surprise, Stanley en profita pour se glisser dans la maison par l'ouverture de la porte. Arthur n'en revenait pas. Cet homme avait utilisé l'ardue technique numéro 83 du manuel 6, dite de l'enfilade, pour s'introduire chez un client pensif. Cet homme n'était pas n'importe qui. Aussi, Arthur décida de l'écouter. « Ah, c'est merveilleux de vous voir tout ouïe, monsieur Van Beck, » commença-t-il. « J'avais peur que vous ne me preniez pas au sérieux. »« Voyons. Qu'est-ce que c'est que cette idée ?» fit Arthur de son ton le plus sarcastique. « Oui, je sais. Un moment d'égarement, sans doute. Mais laissons là toutes ces petites considérations et attaquons-nous au cœur de l'affaire. Je suis, voyez-vous, un commerçant. J'ai eu la chance de faire fortune dans la vente d'épluches coquillettes bulviennes sur Zeta 156 lors de l'excès de récolte des années 360. Ce qui m'a par la suite permis de devenir propriétaire d'un bel hôtel des ventes, où se déroulent les enchères les plus improbables qui soient. Et justement, Ce soir se déroulera la plus grande et la plus fantastiquement démentielle des ventes aux enchères qui ait jamais lieu dans l'histoire de l'univers. Et c'est là que vous intervenez. Je veux que vous soyez mon commissaire-priseur, monsieur Van Beck. Que grâce à votre merveilleux talent, vous fassiez monter les enchères à des hauteurs dépassant l'entendement et que vous poussiez les acheteurs jusqu'à l'exaltation, qu'on s'en souvienne pour les siècles à venir. Alors, monsieur, votre réponse ? Que choisir ? Voilà une question difficile. Arthur récapitula rapidement. Un extraterrestre se tenait devant lui et lui proposait de partir dans l'espace pour y animer une vente aux enchères et se faire au passage un max de blé. Oui, pourquoi pas. Ce gars avait l'air aussi honnête que peut l'être un gars de la vente, et il semblait presque normal comparé aux allumés qu'on croisait à chaque détour de n'importe quelle rue new-yorkaise. Alors il pouvait bien lui faire confiance. Mais restait encore une information manquante, essentielle à l'acceptation. « Et pour ce qui est de mon salaire ?» demanda Arthur. « Ah oui, bien sûr, votre salaire. Ma foi, pour quelqu'un de votre classe, nous pouvons trouver un arrangement autour de... » Stanley marqua une pause pour réfléchir, puis reprit. « 0,000003% du total des recettes. Qu'en dites-vous » « Veuillez sortir de chez moi, monsieur, » dit Arthur d'un ton glacial. « Allons, ne vous fâchez pas. Ça peut paraître peu. » Mais les prévisions sur les recettes de ce soir sont si élevées que ces 0,000003% représentent un montant ridiculement élevé. Plus qu'aucun homme sur votre planète ne pourrait amasser en l'espace de 50 vies, inflation comprise. Alors, ça vous tente de devenir l'homme le plus riche du monde ? Stanley, dont le sourire s'était encore élargi, tendit sa main à Arthur. Ce dernier, qui avait appris à prendre des décisions rapides et toujours dans son intérêt, la serra. Scellons ainsi le contrat. Très bien, voilà qui est fait. Dit joyeusement Stanley en sortant une petite télécommande de sa poche. « Maintenant que c'est réglé, nous pourrons partir. » Il appuya alors sur le bouton central de la télécommande. Il eut un flash de lumière bleue, un petit zap, et les deux hommes disparurent. Ou plutôt, furent téléportés à bord du Décathlon, le vaisseau principal de la société de vente aux enchères universelles Dripsleek, anciennement compagnie de vente d'épluches coquillettes bulvienne Dripsleek. Un bel engin, sympa et spacieux, très adapté pour les transports d'objets précieux avec son armement disproportionné. La cabine de pilotage dans laquelle se trouvait l'arrivée du télétransport était très impressionnante pour un profane, avec des consoles lumineuses partout, des hologrammes et des robots d'entretien qui se baladaient ci et là. Et surtout à cause de l'immense baie vitrée qui offrait une vue poignante, quoique immobile, sur le vide quasi absolu de l'espace intersidéral. La cabine de pilotage dans laquelle se trouvait l'arrivée du télétransporteur était très impressionnante pour un profane, avec des consoles lumineuses partout, des hologrammes et des robots d'entretien qui se baladaient ci et là, et surtout à cause de l'immense baie vitrée qui offrait une vue poignante, quoique immobile, sur le vide quasi absolu de l'espace intersidéral. Arthur, qui pourtant en avait vu d'autres, en restait bouche bée. « Pas mal, hein ?» lui dit Stanley. « J'aime bien ce type de déco, sobre et grandiose à la fois. Ça en jette, non ?» Arthur se contenta de hocher la tête comme indiqué par la règle numéro 24. « Toujours acquiescer au dire de votre client, même si vous êtes troublé, que vous n'y comprenez rien, ou que c'est lui-même un débile profond. » Bon, maintenant accrochez-vous. Le premier saut d'hyperespace est toujours une expérience désagréable. Arthur s'assit simplement sur une chaise, son visage serein ne trahissant rien l'anxiété dont il était envahi. Vous êtes prêts ? Alors, allons-y ! Stanley activa les hyperpropulseurs et, en une fraction de seconde, le vaisseau disparut dans le très lointain, laissant le système solaire terrien derrière lui. Grâce à ses moteurs Procyon Industrie dernier cri, le Décathlon quitta l'hyperespace à exactement 184 984 années-lumière de la Terre et arriva à destination après seulement 7,3 millionièmes de secondes de voyage. Ce fut largement assez pour qu'Arthur vide le contenu de son estomac sur le sol. Réaction tout à fait normale au premier saut dans l'hyperespace d'un être biologique et qui n'entre pas dans le cadre de la charte de remboursement de Procyon Industries. Lorsque, enfin remis, Arthur leva la tête et regarda à travers la baie vitrée, le spectacle qu'il eut en face de lui le stupéfia, à tel point qu'il lâcha un petit « Wow !» ce que jamais de sa vie il n'avait fait. C'était généralement lui qui impressionnait les autres, pas l'inverse. « Mon cher, » dit solennellement Stanley, « bienvenue sur Striata 2, siège des plus grosses sociétés de l'univers et plaque tournante de toutes les transactions. C'est le temple de l'économie de marché, un véritable sanctuaire érigé à la gloire de l'argent et des infinis moyens de gagner ou d'en perdre. Merveilleux, non ? Striata 2 avait en effet de quoi impressionner par son gigantisme. Faisant environ 6 fois la taille de la Terre, la planète d'or, comme on la surnommait, était entièrement artificielle, constituée uniquement de charpentes en proto-acier. Des contrats faramineux étaient signés au sommet des gigantesques tours, visibles depuis l'espace, qui émergeaient à sa surface, alors qu'au plus profond de ses entrailles se négociaient fraudes et OPA en tout genre. Des milliards de vaisseaux, d'immenses essaims de cargo ou de space yachts de plaisance ne cessaient de quitter ou d'atterrir sur la planète, dans un balai aussi délirant qu'anarchique. Justement, le Décathlon venait de se joindre à ce balai et entamait sa descente sur Corav Street, une rue parmi tant d'autres, mais où se trouvait le siège de la société des ventes aux enchères Universal Dribslik, ainsi que son hangar privé situé sur la façade ouest du bâtiment, qui était une sorte d'immense cathédrale de briques dorées ornée d'une multitude de statues de l'actuel directeur. Arthur et Stanley furent accueillis par un somptueux comité, une horde de petits comptables à l'air mauvais et d'organisateurs du monde du spectacle radieux aux costumes bariolés, soutenus par une armée de gorilles en costard de 3 mètres de haut lourdement armés. « Ah, monsieur Dribslik !» s'éclama un des organisateurs. Vous voilà enfin ! Il faut absolument que vous nous suiviez. Vous n'avez pas encore choisi la couleur des rideaux et la répartition des invités dans la salle. On ne peut tout de même pas laisser les types du 6e directoire de la Fédération Covalente avec ceux de l'Alliance pour la sauvegarde étatique des systèmes quaternaires. Ils vont se massacrer avant la première enchère ! Et pour les dépenses liées aux installations antiradiophoniques, pour les crotales de Pécabus sensibles à genre d'émission, vous ne les avez toujours pas réglées, ajouta un des comptables. Et la coiffure des serveuses ? Et les coûts qui seraient subséquents aux opérations de sauvetage éventuelles ? Ainsi, chacun y alla de son petit problème, ensevelissant Stanley sous une avalanche de demandes qu'il n'avait apparemment pas prévues. Il se tourna vers Arthur avec l'air du plus grand embarras. Ce dernier affichait quant à lui une attitude parfaitement indifférente. Il semblerait que j'ai plusieurs affaires qui réclament mon attention, lui dit un Stanley mal assuré mais toujours souriant. Mais ne vous inquiétez pas, il doit bien y avoir quelqu'un qui doit pouvoir s'occuper de vous à ma place. Toujours entouré par ses cohortes suppliantes, il chercha dans son esprit s'il y avait quelqu'un qui ferait l'affaire pour une tâche aussi ingrate. Il fallut une minute pour qu'il se rende compte qu'il avait la personne idéale juste sous la main. Un être si insignifiant qu'il oubliait souvent son existence, malgré le fait qu'elle le suivait dans tous ses déplacements. « Qui est là ? Au pied !» hurla Stanley. Un cri de surprise se fit entendre au loin, et une jeune femme émergea du vaisseau en courant. C'était une jolie fille blonde, vêtue d'un tailleur austère, et qui se cramponnait de manière compulsive à une sorte de tablette interactive. Elle n'avait d'ailleurs pas l'air très bien, avec sa démarche courbée de bête traquée, et à la façon dont elle regardait alentour, comme si elle voyait une menace dans tout ce qui l'entourait. C'est d'ailleurs toute tremblante qu'elle se présenta à Stanley, et que, d'une voix si douce et si faible qu'elle en était presque inaudible, elle bégaya difficilement quelques paroles. « Vous m'avez demandé, monsieur ?»« Je désirerais, ma chère, » lui répondit Stanley, « que vous fassiez faire la visite des coffres à M. Van Beek, ici présent, ainsi que l'informer des objectifs de la soirée et du rôle qu'il jouera. Vous pouvez me faire ça, mon chou ?»«
Oui, oui, monsieur, je pense. »
La jeune femme jeta un coup d'œil d'environ une demi-seconde à Arthur et baissa immédiatement les yeux sur sa tablette en continuant de trembloter. Stanley, lui, s'était approché d'Arthur pour lui souhaiter un au revoir. Il en profita au passage pour lui murmurer quelques conseils au sujet du guide qui lui avait été attribué. « Elle s'appelle Kiela, dit-il. C'est ma secrétaire. Une gentille fille, mignonne, mais plutôt timide. Alors n'osez pas trop la voir, elle pourrait avoir peur. Dans ces cas-là, elle va se cacher sous un meuble et c'est un enfer pour l'en déloger. Ah, et voici une dernière chose qui pourrait vous être utile, fit-il en glissant à Arthur une petite oreillette. Traducteur universel. Toujours utile quand on a à peu près 6890 milliards de langues officielles dans cette galaxie, avec deux fois plus de dialectes. Sur ce, on presse, donc je vous dis à soir. Et il partit, emportant avec lui toute la foule heureuse qu'enfin il leur accorde son attention. Kiela et Arthur, quant à eux, se retrouvèrent seuls dans le hangar, où un silence gêné s'installa, jusqu'à ce qu'Arthur, qui commençait à s'ennuyer, demande enfin, avec toute la gentillesse dont il était capable, bien sûr, si la visite pouvait commencer. « Ah quoi ? » cria-t-elle, surprise.
« Oui, oui, bien sûr, si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît. »
Elle se précipita vers la porte du hangar, l'ouvrit et entra, faisant au passage un signe fugace et quasi imperceptible à Arthur pour l'inciter à la suivre. Ce dernier comprit, et calme et rassuré, s'aventura dans les entrailles du bâtiment. Arthur aurait bien voulu questionner un peu Kiela sur le monde dans lequel il avait débarqué. Mais comme celle-ci conservait une distance de 10 mètres entre deux, toute conversation devenait légèrement ardue. Lorsqu'ils arrivèrent à la salle des coffres, signalé par une immense porte blindée en proto-acier de 6 mètres de haut sur 14 de large, elle se plaça devant la porte et commença à tapoter frénétiquement sur l'écran de sa tablette, entrant le code d'accès. La porte coulissa lentement et s'ouvrit sur une sorte de nuit noire et gluante comme de la gelée. Kiela s'empressa de pénétrer dans cette étrange obscurité, la craignant apparemment moins qu'Arthur. Ne tenant pas à rester derrière, il la suivit. La sensation ressentie au contact de l'ombre fut étrange, mais rien d'insupportable, pas plus que celle de flotter à l'intérieur de l'ombre elle-même. Gardant son moral d'acier, Arthur ne scia pas, mais s'il se demandait quand même ce qu'allait se passer maintenant. Il entendit alors la voix lointaine, ou tout simplement faible, de Kiela dire
« Attendez, je vais ramener la lumière. »
D'un seul coup, toute la nuit environnante se trouva aspirée dans une petite boîte noire au centre de la salle. C'est à ce moment-là que l'assurance sans faille d'Arthur fut impitoyablement broyée sous le poids des merveilles qui se révélaient à ses yeux. Comment décrire ce qu'Arthur vit en parcourant ces étals blindés qui renfermaient des plus incroyables trésors de la création ? Des choses auxquelles on consacrait des livres entiers et sur lesquelles des civilisations millénaires avaient bâti des épopées immenses qui étaient la base de leurs croyances. Il y avait tout. De simples reliques de personnages illustres dans un coin, des artefacts capables de créer des planètes ou d'aspirer un système solaire pour une simple pression sur un bouton. Des choses auxquelles on consacrait des livres entiers et sur lesquelles des civilisations millénaires avaient bâti des épopées immenses qui étaient la base de leurs croyances. Il y avait tout. De simples reliques de personnages illustres dans un coin ou l'autre de l'univers, à des artefacts capables de créer des planètes ou d'aspirer un système solaire par une simple pression sur un bouton. Kiela lui détailla chacun de ces objets de la même voix lente et inaudible, lui expliquant leurs qualités, leurs défauts et leur histoire. Cela nécessita des heures et des heures pour parcourir l'intégralité de la chambre, qui s'étalait sur plusieurs dimensions pour entreposer les plus gros objets, comme les fresques de la période pré-périgolienne qui faisaient dans les 30 000 km de long. Mais tout cela n'était que peccadille en comparaison de la dernière pièce, maîtresse de la vente. C'était une petite boule de couleur bronze, très légère et totalement lisse, avec juste une petite marque sur le dessus, comme une sorte d'interrupteur. Le coffre translucide qui la contenait était recouvert par 12 fois plus de blindage que les autres lots. Arthur considéra l'objet, curieux d'en savoir plus.
Alors ça, c'est ce que M. Stanley appelle son bébé,
expliqua Kiela.
Selon d'antiques légendes datant du début de l'univers, la sphère serait un objet créé par Dieu Tout-Puissant pour remédier à un défaut de conception de la création, je crois.
Et c'est ça qui donne tant de valeur à ce bidule ? Demanda Arthur, dubitatif.
Je ne sais pas, désolé. Mais je crois que c'est aussi parce qu'elle peut exaucer le vœu le plus cher de son possesseur.
Quoi ? C'est vrai ? Dit Arthur.
C'est en tout cas ce qu'on entend dans sa tête quand on l'a dans les mains. Mais pour une raison étrange, M. Stanley ne peut pas l'utiliser. Alors, plutôt que de le donner à quelqu'un d'autre pour essayer, il a décidé de le vendre plus offrant. C'est la principale raison pour laquelle il a organisé cet événement. Elle s'arrêta, marqua une petite pause avant de reprendre. Maintenant que nous avons tout passé en vue, je suppose que je dois vous dire directement. Elle s'arrêta et marqua une petite pause avant de reprendre. Maintenant que nous avons tout passé en vue, je suppose que je dois vous dire comment tout ça va se passer, non ?
Arthur acquiesça machinalement. Il n'en avait pas grand-chose à faire maintenant qu'il avait tout vu. Qu'importe le lieu ou le client, du moment qu'il savait ce qu'il avait à vendre, il pouvait faire des miracles. Non. Ce qui l'intéressait vraiment, ce sur quoi il avait les yeux rivés, c'était la sphère. Cette bête sphère métallique, protégée par 12 épaisseurs de verre ultra blindées, exerçait sur lui une attraction intense. C'était tout de même un objet censé avoir la capacité de combler le plus grand désir de son possesseur, quel qu'il soit, ce qui n'est pas négligeable. Mais il y avait autre chose. Quelque chose d'insaisissable, un sentiment très familier, mais qu'il n'arrivait ni à définir, ni à comprendre. Quoi qu'il en soit, cet état ne dura pas longtemps. Le flot de désirs et des sentiments qui avaient submergé l'âme d'Arthur se heurtèrent à l'immense barrage de son professionnalisme. Il se ressaisit, et fit mine de s'intéresser aux explications interminables de Kiela. Qu'elle récitait le plus doucement du monde. Lorsqu'elle eut fini, il était déjà tard selon le cycle qu'effectuait le soleil artificiel de Stratia 2. Et Arthur fut accompagné avec diligence jusqu'à sa chambre.
Celle-ci était d'une suprême magnificence et aurait fait passer la suite royale dans Hilton pour le dernier des KGB. Il avait hâte de s'y reposer un peu. Elle s'apprêtait à s'affaler sur le lit lorsqu'un cri strident retentit. C'était Kiela. Elle avait l'air paniquée et balançait la tête dans tous les sens. « Mais enfin, s'exclama Arthur, que vous arrive-t-il ? »
« Oh pardon, je suis horriblement, affreusement, terriblement désolé. Et si par hasard l'envie vous venait de me frapper violemment un coup de chaise, je ne dirai rien. Mais j'ai oublié de vous dire que la vente commence en 2 heures. »
Ce fut un coup dur pour Arthur. Tout ce à quoi il aspirait en ce moment, c'était le repos. Et on le lui refusait. Mais ma foi, c'est le métier qui veut ça. Il congédia donc gentiment Kiela et passa les 2 heures suivantes à travailler sur des phrases d'accroche pour chacun des objets. Lorsqu'on le contacta pour l'interphone pour reconquérir sa présence, il était changé, rasé, lavé, coiffé, et fin prêt pour le show. Stanley l'accueillit chaleureusement à l'arrière de l'immense scène où devait se dérouler la présentation. Arthur engagea la conversation en lui parlant de sa secrétaire. « Ah, elle !» dit Stanley. « C'est une jeune fille charmante, vous ne trouvez pas ? Un chien battu ne serait pas plus fidèle ni craintif. »« Justement, » répondit Arthur, « je la trouve un peu timorée. Que lui est-il arrivé ? Rien du tout, c'est juste qu'elle est veldanienne. Mais encore ? C'est une des grandes anecdotes de l'histoire. » Veldanis est une petite planète de la périphérie orientale de la galaxie Panta. Ses habitants étaient parmi les plus pacifiques qui soient. Malheureusement pour eux, leur planète possédait aussi la plus grande réserve d'isogène de l'univers. Une drogue qui vous envoie au 7e ciel en moins de temps qu'il n'en faut pour s'en rendre compte. Ainsi, une chose en entraînant une autre, Veldanis s'est retrouvé pendant 30 millénaires la cible de choix de toutes sortes d'envahisseurs, qui ont laissé la planète dans un état déplorable après avoir épuisé tout son isogène. Dans cet enfer, Dieu seul sait comment les Veldaniens ont survécu aux viols, aux famines, aux épidémies et aux massacres incessants. Mais toujours est-il qu'ils y sont arrivés. Mais cette période de leur histoire les a tellement traumatisés qu'ils sont devenus des gens terrifiés par leur propre ombre. Mais à qui vous pouvez... Dans cet enfer, Dieu seul sait comment les Veldaniens ont survécu aux viols, aux famines, aux épidémies et aux massacres incessants. Mais toujours est-il qu'ils y sont arrivés. Mais cette période de leur histoire les a tellement traumatisés qu'ils sont devenus des gens terrifiés par leur propre ombre. Dans cet enfer, Dieu seul sait comment les Veldaniens ont survécu aux viols, aux famines, aux épidémies et aux massacres incessants. Mais toujours est-il qu'ils y sont arrivés. Mais cette période de leur histoire les a tellement traumatisés qu'ils sont devenus des gens terrifiés par leur propre ombre. Mais à qui vous pouvez confier votre vie en toute quiétude, car incapable d'envisager la simple possibilité de vous trahir. Arthur ne savait trop que penser de cette tragique histoire, et avait un peu pitié de ce peuple. Stanley, voyant sa triste mine, lui asséna une grosse tape amicale dans le dos. « Allons, monsieur Van Beek, laissez là toutes ces pensées futiles sur l'acharnement aveugle du destin. Et voyez plutôt cette effervescence qui vous entoure, tous ces employés qui s'affairent à rendre cette soirée inoubliable. Les trésors rutilants mis en vente nous rendront infiniment riches dans nos mondes respectifs. Parce que, croyez-moi, les prix vont grimper ce soir. Regardez ce moniteur. Il est relié à 13 456 caméras de surveillance qui quadrillent la salle. Tous les plus grands notables, les plus riches méga-corporations et les plus puissants empires de l'univers y sont représentés d'une manière ou d'une autre. Il y avait en effet un nombre très conséquent de personnes qui s'entassaient derrière le rideau. Des ambassadeurs aux formes plus ou moins étranges selon l'ethnie qu'ils représentaient. Des industriels pâles aux tronches grotesques dans leurs costumes trop petits. Et encore même des... Non, se dit Arthur. Mais si ce n'est pas possible, un truc pareil... J'ai du mal voir. Il revérifia la même vidéo 20 fois. Toujours la même vision. L'évidence était là, sous ses yeux. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les religions de sa planète avaient réussi à s'exporter dans l'espace. Dieu seul sait comment. Un petit bonhomme humanoïde à la peau grise, coiffé d'une grande mitre et vêtu d'un grand manteau blanc et or, qui s'appuyait en tremblotant sur un grand bâton et entouré par une bande d'aliens visiblement mal à l'aise. Un petit bonhomme humanoïde à la peau grise, coiffé d'une grande mitre et vêtu d'un grand manteau blanc et or, qui s'appuyait en tremblotant sur un grand bâton, et entouré par une bande d'aliens visiblement mal à l'aise, dans leurs mosettes rouges trop serrées. Cela ressemblait trop à un cortège papal pour être une coïncidence. Et ce n'était pas tout. À quelques dizaines de mètres du cortège étaient en train de s'asseoir une centaine d'imams, et encore plus loin, des rabbins, des brahmanes, et même quelques orthodoxes avec leurs patriarches. Lorsqu'Arthur questionna Stanley sur ses troublantes visions, ce dernier répondit, surpris, « Quoi ? Vous n'êtes pas au courant de ça chez vous ? » Il y a quelques siècles, alors que les principes d'économie de marché, de rationalisme et de prêt aux taux variables avaient atteint leurs apogées. Quoi ?
Vous êtes pas au courant de ça chez vous ? Il y a quelques siècles, alors que les principes d'économie de marché, de rationalisme et de pré-autorat...
Quoi ?
Vous n'êtes pas au courant de ça chez vous ? Il y a quelques siècles, alors que les principes d'économie de marché, de rationalisme et de pré-autorat variable avaient atteint leur apogée, les peuples de l'univers sentirent ressurgir le besoin de croire en quelque chose de totalement arbitraire et invérifiable. Cependant, personne n'était plus capable d'inventer une religion... Cependant, personne n'était plus capable d'inventer une religion satisfaisante. Lorsque la situation commença à avoir une influence négative sur les études de marché, les dirigeants de l'univers décidèrent d'agir et trouvèrent la solution sur une des planètes les plus primitives de la galaxie, la vôtre. Ils y envoyèrent des vaisseaux qui vous empruntèrent quelques missionnaires et leur demandèrent de prêcher pour leur culte respectif. Leur méthode de conversion était si efficace que les dirigeants ont immédiatement adhéré et différentes croyances se sont répandues comme une traînée de poudre dans l'univers, engendrant les premières guerres saintes depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, il faut le dire, même si toutes les religions sont populaires, c'est quand même votre christianisme qui marche le mieux, avec sa méthode de propagation brutale mais efficace. Moi-même, voyez-vous, j'ai une sœur sur Aboulis qui... Une sonnerie tonitruante se déclencha au même instant, sauvant Arthur d'une longue et futile conversation. « Bon Dieu !» hurla Stanley. « La cérémonie commence! Je dois aller faire la présentation. Vous, restez ici et attendez mon signal. » Il partit au pas de course et laissa Arthur seul pour répéter une dernière fois son intervention. Dans l'immense salle commune régnait la rumeur pesante qui précède les représentations attendues. Les gens discutaient de leur future acquisition, de leurs femmes, des cours de la bourse Grobune, des autres problèmes déviés. Soudain, l'intensité lumineuse quadrupla. Tous les projecteurs se braquèrent sur la scène et un orchestre entama la tonitruante symphonie numéro 6 de Paloglavicic, le célèbre compositeur altérien. Tous se turent, l'attention focalisée sur la scène où Stanley allait s'exprimer. Mesdames, messieurs et autres androgynes, bonsoir et bienvenue à la plus grande vente aux enchères de l'histoire de l'univers. En cette soirée exceptionnelle, je vous parlerai franchement. Je meurs d'envie de vous asséner le plus long et ennuyeux discours de votre vie. Mais devant une telle perspective de bénéfices, je me retiendrai. Aussi, je laisse la parole à notre incroyable commissaire-priseur, Monsieur Arthur Van Beck. Arthur entra sur scène du démarche royal. Applaudi de toutes parts, il se plaça sur un petit podium, souriant, confiance et capacité. Je ne dirai ni plus ni moins que ce qui a déjà été dit, commença-t-il. Car ce soir, ce ne sont pas les paroles qui comptent. Ce sont les actes. Ce sont vos actes. Il ne tient qu'à vous de faire de cet événement le plus retentissant qu'ait connu le monde depuis sa création. Sur ce, la vente est ouverte. Premier lot, jamais. De mémoire d'être vivant, on avait vu quelqu'un parler mieux qu'Arthur Delphi durant cette vente. Sa diction était fluide, sa voix pleine de charisme. Chaque qualité des lots, il la sublimait jusqu'au paroxysme et arrivait à transformer chacune de leurs tares en merveille d'originalité. Le public était en délire, les acheteurs se bousculaient. Des sommes folles étaient mises sur la table et absolument rien ne partait à moins de 14 fois son estimation. Arthur se faisait peur à lui-même tant il était bon. C'était comme si l'univers tout entier le soutenait pour qu'il réussisse au-delà de toute attente. Et en effet, toutes les attentes furent dépassées. Après 5 heures de transactions ininterrompues, les enchères se clôturèrent par la vente de la sphère qui fut achetée par le consortium Latislius, société possédant le quasi-monopole de l'exploitation minière interstellaire. À elle seule, cette vente représentait le 5e de la recette totale de la soirée, qui se chiffrait en plusieurs milliards de teratrillions de dollars striatiens. Une réussite sur toute la ligne. Lorsqu'Arthur eut terminé, il alla rejoindre Stanley derrière le rideau. Ce dernier était à l'agonie, avachi sur une caisse de calmant vide avec Kiela à ses côtés pour le soutenir. Il leva son visage pâle mais souriant vers Arthur. « C'était fantastique, » dit-il essoufflé. « En 40 ans de carrière, je n'avais jamais vu ça. Et pourtant j'en ai vu. Croyez-moi. » « Je suis content que cela vous ait plu, » répondit Arthur avec un sourire satisfait. Je dois dire que j'ai été très surpris de ma propre performance. C'était comme si... Ouais, c'est très bien, l'interrompit Stanley. Vous me raconterez ça après la cérémonie. D'accord ? La cérémonie, fit Arthur.
Quelle cérémonie ?
Quoi ?
Kiela ne vous aurait pas averti ?
Il y a une cérémonie pour la remise de la sphère à son nouveau possesseur dans 5 minutes. C'est vous qui êtes censé la présider. Encore des trucs à faire, pensa Arthur. J'ai dû louper cette partie d'explication. Bon, au moins, c'est la dernière ligne droite. Après, à moi la belle vie. Il retourna donc sur la scène. Presque tous les invités étaient restés, et il eut droit à une autre copieuse dose d'applaudissements. Les officiels du consortium Lattice montèrent le rejoindre, et bientôt arriva Stanley. Remis sur pied, il transportait un petit coffret en bois laqué, finement sculpté, avec une jolie clé d'or y posant la serrure. Il l'ouvrit et révéla la sphère à l'assemblée qui poussa un grand « Oh !» de circonstance. « Messieurs, s'exclama solennellement Stanley à l'adresse des représentants, c'est avec un grand plaisir que notre société vous remet cette divine relique. Puisse-t-elle vous apporter richesse, bonheur et tout le reste ?» Les applaudissements redoublèrent alors qu'Arthur leur tendait la boîte. Le premier du groupe s'approcha et lorgna sur son contenu, les yeux brillants d'avidité. Il s'apprêtait à saisir la sphère lorsque d'un seul coup Arthur la retira. Il fit claquer le couvercle, referma la boîte, la mit sous son bras, et s'enfuit à toutes jambes sans regarder derrière lui. Ce coup de théâtre laissa tout le monde sans voix, et plus particulièrement Stanley, qui mit un certain temps à se rendre compte de ce qui s'était passé. Ils étaient prévenus contre toutes les tentatives de vol possibles, avaient acheté les équipements les plus coûteux et avaient engagé un service de sécurité équivalent à l'armée d'une petite fédération galactique. Il avait tout prévu, tout envisagé. Sauf que le voleur puisse être le commissaire priseur lui-même, et que ce dernier aurait le culot de voler la sphère divine au beau milieu de la cérémonie. C'est-à-dire précisément lorsque le niveau de sécurité était à son plus bas. Après avoir passé le stade initial de l'incompréhension, vint celui de la colère aveugle et démente. Son visage vira au rouge. Il poussa un tonitruant cri de rage et, d'écume aux lèvres, les yeux injectés de sang, il agrippa au collet un de ses gorilles. « Bougez-vous, tant d'incapables ! Allez me buter cet enfoiré » hurla-t-il. « Qu'il ne sorte pas d'ici vivant ! Aucune restriction sur les armes ! Tirez à vue ! Et ne revenez pas avant d'avoir désintégré chacun des atomes de ce petit merdeux ! Exécution !» Arthur courait comme un dératé dans le bâtiment, l'adrénaline se déversant en torrent dans ses veines. La crise de Stanley, audible à des kilomètres, l'avait quelque peu paniqué, et il entendait déjà le bruit des explosions en lointain, signe qu'on était à sa poursuite. La crise de Stanley, audible à des kilomètres, l'avait quelque peu paniqué, et il entendait déjà le bruit des explosions dans le lointain, signe qu'on était à sa poursuite. Pour se rassurer, il continuait de serrer très fort la boîte contre lui. Il ne comprenait absolument pas pourquoi il l'avait prise. Une pulsion, un délire passager sans doute. De toute façon, il s'en fichait, et était même étrangement satisfait. Restait à sortir du bâtiment, ce qui allait se révéler vraiment difficile. Heureusement, la chance et les panneaux d'indication étaient avec lui, et il retrouva bien vite le chemin du hangar. Une fois à l'intérieur, il chercha un quelconque moyen de s'échapper lorsqu'un bruit, une sorte de couinement, le fit sursauter. Il examina les alentours et trouva la pauvre Kiela qui se cachait derrière une pile de bidons de carburant. La voyant ainsi terrifiée par toute cette agitation, en position fœtale, lui donna un léger pincement au cœur. « Pauvre fille !» pensa-t-il simplement. Il détourna ensuite son regard et se dirigea au pas de course vers un des vaisseaux. Le Barnins Bar était un établissement plus ou moins respectable des bas-fonds de Striata. Il avait comme clients toutes sortes d'individus peu recommandables, truands, bandits, terroristes, égorgeurs, rebuts de la société, et même quelques financiers et banquiers terrifiants, dont tous évitaient de croiser le regard. C'est dans ce bar qu'Arthur entra, après avoir échappé au gorille Stanley. Il était sorti du bâtiment en volant un de ses nouveaux vaisseaux à pensée de chez Procyon Industries, ceux qui répondaient aux ondes cérébrales de leur pilote via une interface. ultra-perfectionnée. Il avait usé de son don pour convaincre l'ordinateur de bord de le conduire jusqu'ici. Maintenant, il était enfin tranquille pour un moment, du moins jusqu'à ce que le vol soit déclaré, ce qui ne saurait tarder. En attendant, il allait profiter au maximum de ce moment d'accalmie pour réfléchir un peu à ses actions. « Qu'est-ce que vous voudriez, mon bon monsieur ?» lui demanda un serveur avenant. « Servez-moi ce que vous avez de plus fort, mais de moins mortel, s'il vous plaît. J'ai une dure journée. »« Tout de suite, mon bon monsieur. » Il lui apporta alors un grand verre de plasma bicorélien. Un liquide que les coréliens utilisaient jadis comme détartreur avant de prendre connaissance de ces vertus alcoolisées et ainsi d'en tirer le pilier de leur économie. Arthur avala le tout cul sec. L'effet fut immédiat. Ce fut comme s'il recevait un grand coup de marteau dans la... Mais ensuite, le choc initial passant, Arthur commença à se sentir plus lucide, comme si son cerveau se libérait progressivement de ses entraves. En fait, c'était là un des effets secondaires du plasma biturque aurélien, résultant de son utilisation première. Cette capacité à détartrer les conduits cérébraux était peu appréciée des soifards, qui ne demandent qu'à pouvoir se saouler en paix sans que leur esprit ne se ramène. Arthur, lui, voyait cela comme une bénédiction. Il arrivait enfin à comprendre tout ce qu'il avait fait durant ces dernières heures. Pourquoi il avait pris la sphère, trahi Stanley, abandonné une vie de méga multimilliardaire sur Terre. Arthur, lui, voyait cela comme une bénédiction. Il arrivait enfin à comprendre tout ce qu'il avait fait durant ces dernières heures. Pourquoi il avait pris la sphère, trahi Stanley, abandonné une vie de méga multimilliardaire sur Terre. Et même la réponse à ce sentiment qu'il prenait quelquefois le soir, et qui était définitivement le même que celui qu'il avait ressenti en regardant la sphère. Toute sa vie, il l'avait passé en mobilisant des gens pour des causes diverses, la plupart du temps pour leur vendre des trucs. Ce genre de pratique ne l'ennuyait pas vraiment. C'était même un don qu'il appréciait. Cette situation laissait cependant un grand vide en lui, un vide qu'aucune femme et qu'aucune richesse matérielle au monde ne pourrait jamais remplir, un irrépressible besoin de reconnaissance. Pas seulement la reconnaissance nationale, planétaire ou même interplanétaire, mais une reconnaissance inconditionnelle et éternelle de toute la création à son égard. Qu'importe qu'il ait eu son moment de gloire, l'univers l'oublierait bien vite. Et il serait remplacé par une autre personnalité délurée qui défrayerait la chronique un moment avant de tomber dans l'oubli à son tour. Il avait décidé que ce destin ne serait pas le sien. Après une excitation que jamais de sa vie n'avait connue, Arthur ouvrit la boîte et se saisit de la sphère. Il ignora le refrain du « Le possesseur de cette sphère verra un de ses vœux, etc. » qu'elle entonnait en appuyant. Il ignora le refrain du « Le possesseur de cette sphère verra un de ses vœux » qu'elle entonnait et appuya comme un malade sur le bouton. Le bar crasseux se trouvait disparu et fut remplacé par un beau vide blanc immaculé. « Bienvenue, Arthur Van Beek, » commença une mystérieuse entité invisible avec une voix de réceptionniste. « Vous êtes ici dans une singularité dimensionnelle créée spécialement pour vous assurer la plus totale intimité dans votre choix. Veuillez maintenant indiquer la nature de votre vœu et nous nous ferons une joie de l'exaucer. » Arthur savait exactement ce qu'il voulait. D'une voix forte, il s'exclama « Je suis le plus grand vendeur de tous les temps, et pour toujours je veux être reconnu comme tel, dans tout l'univers et dans toute son histoire. » Il eut un silence, et Arthur crut entendre un petit rire flotter dans l'air. « Très bien, monsieur, » dit finalement la voix, « votre vœu va être exaucé dans les plus brefs délais. Toute la société God Industries vous remercie pour avoir choisi ces produits et pour avoir contribué à la préservation du continuum... Toute la société God Industries vous remercie pour avoir choisi ces produits et pour avoir contribué à la préservation du con... Toute la société God Industries vous remercie pour avoir choisi ces produits et pour avoir contribué à la préservation de votre dimension. Passez une excellente journée. » Arthur n'eut pas le temps de comprendre que l'espace autour de lui se rétracta, emportant l'intégralité de son existence au passage. De retour au bar, sur sa chaise, il ne restait plus qu'une boîte vide. Arthur marcha sur la route en sablé depuis environ 10 minutes. Tous ses habits avaient disparu et avaient été remplacés par une simple toge, 2 sandales et 1 bâton. Étrangement, il avait rajeuni d'une 20aine d'années. Le soleil de midi tapait fort et il aurait donné n'importe quoi pour se débarrasser de sa barbe et de ses longs cheveux. Qu'est-ce qu'il faisait là, de toute façon? C'était absolument pas ce qu'il avait souhaité. Il vit un homme arriver. Son habit ressemblait curieusement à celui d'un soldat romain tel qu'il l'imaginait. « Pardon, mon brave, » demanda-t-il. « Mais où sommes-nous ? » Arthur porta la main à sa bouche, effaré. Il venait de s'exprimer dans une langue qu'il ne connaissait pas. « Nous sommes en Galilée, pardi, sous le règne de notre bon empereur Tibère, » répondit le soldat. « Vous êtes sûr que ça va ?» C'était du latin, mais Arthur avait toutefois compris. Il demanda encore, « Pouvez-vous m'indiquer la cité la plus proche ?»« Bien sûr. Continuez à suivre cette route et dans quelques lieux, vous devriez apercevoir les murailles de Jérusalem. »« Merci. Il n'y a pas de quoi, l'ami. Ave !» Arthur, enfin, avait compris le fin mot de l'histoire. Il connaissait la suite, ainsi que le destin tragique qui l'attendait. Mais il s'en fichait. « Le plus grand vendeur de tous les temps, » murmura-t-il, « reconnu et adulé en tant que tel par tout l'univers, et ce jusqu'à la fin des temps. » « Je crois que ça peut me convenir ainsi. »
Par contre, pour la suite, si c'est vrai ce qu'on dit, qu'est-ce que j'aime ramasser ? Bah, c'est la rançon de la gloire. Et sur ces entrefaites, il reprit la route. Mais cela est une autre histoire.